France Culture.
Et tout de suite, on fait le point sur l'information. C'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Après plus de 25 années de négociations, l'Union européenne touche enfin du doigt l'accord commercial avec le Mercosur. Celui-ci a reçu ce matin l'aval des États européens, en dépit donc de la colère des agriculteurs et de l'opposition de la France. Nous serons à Bruxelles dès le début du journal. On en parlera également avec notre invité aujourd'hui, l'économiste Hervé Guillaumard. Et puis on tâchera d'analyser le dessous des cartes politiques rebattues en France à l'occasion de ce vote. À suivre également l'audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation dans la perspective d'une nouvelle année 2026 qui sera marquée par plusieurs affaires politico-judiciaires. L'actualité à l'étranger, cette fois-ci, c'est tout d'abord la contestation qui se poursuit en Iran en même temps que l'avertissement lancé ce matin par le guide suprême. Le régime ne reculera pas, dit-il, face à des manifestants qualifiés de vandales. Et puis on reviendra sur la toute première attaque majeure depuis le début de l'année de la Russie sur l'Ukraine, visant la nuit dernière des infrastructures civiles, mais aussi plusieurs bâtiments résidentiels. Après avoir bravé les interdictions et débarqué en plein cœur de Paris, les tracteurs des agriculteurs en colère ont fini par se replier ce matin aux abords de la capitale. En revanche, des actions de blocage persistent, toujours en particulier dans le nord, sur les autoroutes A27 et A2 qui mènent à la Belgique. Une démonstration de force toutefois en forme de baroud d'honneur, puisque ce matin, donc, les États européens ont approuvé à la majorité qualifiée le traité de libre-échange avec les pays sud-américains du Mercosur, marquant ainsi la fin de 25 années de négociations. Alors la France aura pourtant espérer jusqu'au bout réunir une minorité de blocage, en vain, même si Paris explique aujourd'hui que la partie ne serait pas tout à fait terminée, puisque l'accord, s'il est bien signé, devra encore être soumis au Parlement européen pour ratification dans quelques semaines. Fabien Cazot, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
En direct de Bruxelles, en réalité, l'Union européenne devrait bel et bien approuver donc un traité commercial contre l'avis de la première puissance agricole du vieux continent, une situation, Fabien, d'ailleurs quasiment inédite.
Oui, et c'est d'autant plus douloureux pour la France au niveau européen qu'elle n'a de cesse de revendiquer un rôle moteur parmi les 27 en tant que membre fondateur de l'Union, et la voilà qui se retrouve cantonnée dans une minorité qu'on ne peut même plus qualifier de blocage, aux côtés du très eurosceptique Premier ministre hongrois Viktor Orban, sans pouvoir peser sur l'issue finale du vote, ni donc sur la colère des agriculteurs qui poursuivent leur mobilisation. Par souci de cohérence et par peur de représailles politiques, notamment des risques de censure pour le gouvernement de Sébastien Lecornu, Emmanuel Macron a donc choisi de tenir bon sur sa position du non, et ce, malgré plusieurs avancées consenties ces derniers mois par la Commission européenne. L'Élysée s'en réjouissait encore hier soir, la possibilité de suspendre les importations dès lors qu'elles atteindraient des niveaux trop élevés, un renforcement des contrôles sur les marchandises en provenance du Mercosur, l'interdiction de certains produits contenant des résidus de pesticides interdits en Europe, ou encore le déblocage anticipé de fonds de la politique agricole commune qui a fait basculer l'Italie dans le camp du oui avant-hier. Les 27 donnent donc leur feu vert aujourd'hui, ce qui ouvrira la voie à une application provisoire de l'accord dès sa signature au Paraguay par la présidente de la commission Ursula von der Leyen la semaine prochaine, la date exacte restant encore à préciser.
Merci Fabien Cazot en direct de Bruxelles. Et pour continuer d'évoquer la signature de cet accord et ses conséquences, notamment les nombreuses concessions d'ores et déjà accordées par l'Union européenne ces derniers mois aux agriculteurs, invité de la rédaction aujourd'hui Hervé Guillaumard, économiste par ailleurs directeur de recherche à l'INRAE. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Dès hier soir, donc Emmanuel Macron avait fait savoir que la France voterait contre cet accord, tout en saluant les concessions, je cite, incontestables de Bruxelles. Comment est-ce que vous analysez cette position de la France ?
La position de la France, a pratiquement depuis le début été opposée à l'accord tel qu'il était. Elle était opposée avant Noël. La Commission a fait, comme vous le dites et comme a dit votre journaliste, des concessions entre Noël et aujourd'hui. Et la France a jugé en fait que les concessions ou ce qu'elle avait gagné en fait entre Noël et aujourd'hui étaient insuffisantes pour lui permettre de signer l'accord, sans nul doute aussi parce qu'il y a la pression en fait des agriculteurs et des manifestations que l'on connaît hier et aujourd'hui.
Pour autant, je le disais, Emmanuel Macron a salué des avancées, parmi lesquelles notamment la proposition de la Commission européenne de débloquer 45 milliards d'euros supplémentaires sur le prochain budget de la PAC, la politique agricole commune, qui ne concerne donc pas en réalité directement le contenu de l'accord avec le Mercosur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit exactement ?
Oui, il y a des réflexions en cours aujourd'hui sur la PAC qui s'appliquera après 2027, donc théoriquement au 1er janvier 2027, dans le cadre financier pluriannuel de l'Union européenne. Et dans ce cadre-là, le budget qu'on appelle sanctuarisé pour la politique agricole commune était, avant les annonces de la Commission, de 300 milliards d'euros pour 7 ans, que vous devez comparer en fait aux 387 que l'on accorde aujourd'hui. Et donc la France et beaucoup d'autres États membres jugeaient que ce budget sanctuarisé était insuffisant. Et donc il y a une rallonge de 45 milliards, comme on dit aujourd'hui, qui a été obtenue, plus d'autres avantages. La question va être de savoir ensuite comment en fait cet argent additionnel va être réparti entre les différents États membres au sein de leur enveloppe nationale. Donc il y a encore beaucoup de choses à analyser avant de voir comment cela se traduira concrètement dans le budget de la PAC qui sera accordé à la France pour après 2027.
Ça veut dire donc que cette mise à jour du budget va ouvrir une phase de nouvelles négociations pour la France pour déterminer donc quelle part lui en reviendra. Dans ce contexte, est-ce que le fait de s'être mise en infériorité sur le vote du Mercosur ne risque pas de réduire peut-être son crédit politique pour les prochaines négociations à venir, justement ?
Oui, c'est possible. Enfin, ce n'est pas mon domaine de recherche, mais c'est possible puisque la France a refusé l'accord aujourd'hui. Et donc, dans les négociations qui vont venir sur la PAC pour l'après 2027, il y a encore beaucoup de choses à négocier. Y compris d'ailleurs au total des choses non agricoles comme le budget total de l'Union européenne, quoi. Et pour ce qui est de l'agriculture stricto sensu, le refus de la France de signer le Mercosur le met sans doute dans une position moins favorable que si elle avait signé par rapport aux négociations budgétaires sur la PAC de l'après 2027 et l'enveloppe qui sera donnée à la France in fine.
Je reviens à l'accord du Mercosur. Parmi les autres concessions faites par Bruxelles, on pourrait citer l'introduction de clauses de sauvegarde donc qui permettent de remonter les taxes douanières si le marché de certaines denrées était déstabilisé par ces nouvelles importations, ce qui était une manière de rendre ce traité plus acceptable pour les agriculteurs. Est-ce que c'est là véritablement une modification importante de la nature de l'accord avec les pays du Mercosur ?
Oui, l'idée c'est que quand votre marché intérieur, le marché européen ou le marché français, est trop perturbé par les importations et donc conduit à des baisses de prix sur le marché intérieur, c'est que vous réintroduisez en fait une protection aux frontières qui limite vos importations et par moins d'importations, vous réaugmentez en fait les prix intérieurs. Donc ça c'était une concession très importante. Reste à voir après concrètement comment le mécanisme serait ou sera mis en œuvre, puisque l'accord devrait être finalement mis en œuvre, et de voir comment on va déclencher en fait ces clauses de sauvegarde déclarant qu'il y a une perturbation de marché. Et donc c'est incontestablement quelque chose qui répond en fait à une demande des agriculteurs. Il reste à voir en pratique si ça peut être suffisant par rapport à des perturbations de marché et des baisses de prix que l'on peut observer.
C'est bien compris. Merci Hervé Guyomard, économiste, par ailleurs directeur donc de recherche à l'INRAE, d'avoir répondu à notre invitation. Et merci également à Louise Guérin pour la préparation. Alors l'échec de la France à bloquer ce traité de libre-échange risque d'exposer le chef de l'État en fin de règne à un procès en perte d'influence. Seule bonne nouvelle en réalité pour Emmanuel Macron, celui-ci devrait réussir à sauver malgré tout son Premier ministre, puisque face à la pression de ceux qui à droite et à l'extrême droite menaçaient de faire tomber le gouvernement en cas de vote favorable, le président a fini par faire le calcul politique qu'il valait mieux aller dans le sens des opposants en votant contre cet accord. Ce qui ne suffira pas, on l'a dit, à bloquer le traité, mais permettra en partie à Emmanuel Macron de sauver la face et surtout Sébastien Lecornu, lequel bataille toujours pour réussir à faire adopter un budget pour l'année en cours. Rosalie Lafarge, bonjour.
Bonjour Thomas.
En fin de compte, cet épisode sera venu illustrer, Rosalie, une fois de plus, l'instabilité politique à l'œuvre dans le pays.
L'unique option d'Emmanuel Macron, c'était de se prendre une claque, résume un député de droite. Le seul choix à faire, c'était de la prendre au niveau européen ou au niveau national. Le président a fini par trancher dans le contexte qu'on connaît, la pression d'une partie des agriculteurs mobilisés, celle des parlementaires très remontés et qui se sont fait toute la semaine de plus en plus menaçants. Un vote pour ou une abstention française aurait immédiatement provoqué le dépôt d'une motion de censure aux grandes chances d'être adoptée. Même des LR envisageaient de la voter. Dans l'entourage du chef de l'État, certains de ses proches l'ont vivement mis en garde sur les risques encourus au Parlement comme dans la rue. Malgré des avancées incontestables, le constat doit être dressé d'un rejet politique unanime de l'accord, fini par écrire Emmanuel Macron pour justifier sa position. Lui qui, depuis qu'il est à l'Élysée, n'a pas toujours été fermement opposé à ce traité. Pas tout à fait favorable en 2017, plutôt pour en 2018, une fois réticent, une fois plus ouvert. Il a bien tenté d'expliquer les gains français, mais c'est devenu un objet politique qui dépasse la raison, insiste un de ses soutiens. Le président s'efforce maintenant d'expliquer que l'histoire n'est pas finie. La prochaine étape se joue au Parlement européen. Mais la contestation intérieure n'est pas terminée non plus, ni chez les agriculteurs, ni chez les politiques. Même si elles ont en l'état peu de chances d'aboutir, deux motions de censure ont été, malgré ce vote contre, déposées par le Rassemblement national et la France insoumise.
Merci Rosalie Lafarge. Et puis je précise que dans le même temps, les députés ont eux repris en commission hier l'examen du projet de loi de finances. Or, ils peinent toujours à faire émerger les contours d'un compromis, de quoi alimenter un peu plus l'hypothèse d'un retour possible de l'article 49.3. Et ce même si le Premier ministre s'était pourtant engagé à ne pas l'utiliser. Ce qui signifie le cas échéant qu'il devra encore trouver les termes d'un pacte de non-censure, notamment avec le Parti Socialiste.
Toujours parmi les soubresauts attendus de la vie politique, cette nouvelle année 2026 sera marquée, on le sait, par plusieurs affaires jugées en appel.
Oui, deux en particulier devraient décider du sort judiciaire de Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen, de quoi probablement alimenter les polémiques. Et c'est donc dans ce contexte, disons, perturbé, parfois même fiévreux, que se tenait ce matin l'audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation. L'occasion, Florence Turme, de rappeler d'une part les menaces de plus en plus souvent portées contre les juges et d'autre part la nécessaire indépendance de l'institution judiciaire.
Et dès le début de cette audience, sous les ordres de la Grande Chambre de la Cour de cassation, une légère entorse au protocole. Le Premier président s'adresse directement à un juge de la Cour pénale internationale. Il s'agit de Nicolas Guillou, chargé entre autres du mandat d'arrêt visant le Premier ministre israélien et visé lui-même depuis août dernier par des sanctions américaines. « Votre présence aujourd'hui, déclare Christophe Soulard, nous rappelle à tous le courage qui doit être celui des magistrats lorsqu'ils ont à prendre des décisions difficiles. » Tant notre époque semble vivre un retour de la force brute contre l'état de droit. Des propos qui résonnent dans le contexte actuel et des menaces dont ont fait l'objet les juges qui ont condamné Marine Le Pen, la liberté d'expression n'autorise pas à porter le discrédit sur l'autorité judiciaire, enchaîne le procureur général Rémy Heitz. Il dénonce des mots graves dans une société aussi éruptive que la nôtre. Attaquer la justice, c'est affaiblir l'édifice républicain dans son ensemble. Pour autant, ces attaques traduisent aussi une exigence accrue à l'égard des juges et la nécessité d'une meilleure communication, estiment à la fois Christophe Soulard et Rémy Heitz. Lui lance également un appel aux législateurs, remettre sur les rails la réforme du parquet pour garantir son indépendance vis-à-vis du pouvoir en place et ceux à venir. Non seulement le temps est venu, mais le temps presse, insiste le procureur général. Nous ne pouvons céder à la résignation qui mènerait demain au regret.
Midi et 43 minutes sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
La République islamique ne reculera pas. L'avertissement est lancé ce matin par le guide suprême iranien dans un discours retransmis en direct à la télévision au lendemain d'une manifestation spectaculaire contre le pouvoir à Téhéran, au cri notamment de mort au dictateur. Sans surprise, Ali Khamenei a donc fermement condamné le mouvement de protestation en qualifiant Isabelle Labéry les manifestants d'émeutiers.
Oui, le ton est ferme, sans compromis. Devant un parterre de plusieurs centaines de personnes qui l'acclament à chacune de ses phrases, Khamenei disqualifie la mobilisation populaire et justifie la répression du régime.
Manifester est légitime, mais ce n'est pas la même chose que semer le chaos. Nous dialoguons avec les protestataires. Ils doivent pouvoir s'exprimer. Mais avec les fauteurs de troubles, parler ne sert à rien. Les fauteurs de troubles, il faut les remettre à leur place. Que cela soit clair pour tout le monde, la République islamique, arrivée au pouvoir au prix du sang de plusieurs centaines de milliers de personnes honorables, ne reculera pas face à ceux qui la détruisent.
Fidèle à sa rhétorique anti-étrangère, le guide suprême explique aussi que les manifestants agissent, je le cite, « pour plaire au président américain ». En faire des conspirateurs agissant pour le compte des États-Unis est aussi une façon de nier l'existence de la crise. En réponse à Donald Trump, qui a menacé de frapper le pays en cas de répression massive, il appelle le président américain à se concentrer sur ses propres problèmes plutôt que de s'immiscer dans les affaires intérieures iraniennes.
Les images ont fait le tour du monde hier toute la journée. Celle d'une jeune femme de 37 ans, mère de 3 enfants, abattue à bout portant par la police de l'immigration à Minneapolis.
Un acte qualifié encore par la Maison-Blanche de légitime défense que contestent les élus démocrates comme les milliers de personnes qui se sont rassemblées hier soir pour exprimer leur peine en même temps que manifester leur colère et puis au risque de voir une fracture au sein de la société américaine se transformer en véritable gouffre. Hier, ce sont 2 personnes qui ont été encore blessées à Portland par des tirs de policiers fédéraux, l'état des victimes hospitalisées, un homme et une femme restent toujours inconnus. Donald Trump recevra aujourd'hui les dirigeants des grandes entreprises pétrolières américaines pour tenter de les convaincre de soutenir ses projets au Venezuela, où le locataire de la Maison Blanche entend bien imposer une tutelle sur l'or noir pour de nombreuses années. Reste à savoir dans quelles conditions ces compagnies pourraient en effet bénéficier de cette nouvelle ruée sur le pétrole, aubaine ou pari risqué entre les inconnus politiques d'une part et puis les financements colossaux nécessaires après des années d'embargo et de sous-investissement d'autre part, l'industrie pétrolière préfère pour l'instant se montrer prudente.
L'armée du Kremlin a effectué la nuit dernière une nouvelle attaque massive contre son voisin.
Et notamment au moyen d'un missile balistique hypersonique. 36 missiles au total et pas moins de 242 drones se sont abattus sur l'Ukraine. Et c'est ainsi que ce matin, la moitié des immeubles d'habitation de la capitale Kiev se retrouvent privés de chauffage. Théo Renaudon, bonjour.
Bonjour.
Correspondant de RFI pour France Culture en Ukraine. Alors, forcément, avec de telles frappes, en particulier à proximité de la frontière de l'UE et de l'OTAN, difficile, Théo, de ne pas lire à travers cette attaque un nouveau test adressé par la Russie aux alliés de l'Ukraine.
Oui, des centaines de milliers d'Ukrainiens ont passé la nuit sous terre dans un abri avec l'angoisse de ne pas retrouver sa maison le lendemain. À la surface, les médias locaux rapportent des images d'immeubles éventrés par des drones et missiles dans toute la capitale. Une vingtaine de tours d'habitation ont été attaquées. De nombreux incendies ont également été déclenchés par les explosions. Ce matin, vous le disiez, plus d'électricité et même plus d'eau dans de nombreux immeubles. Le maire de Kiev appelle carrément à quitter la ville pour ceux qui le peuvent. Mais ce qui a beaucoup retenu l'attention des Ukrainiens cette nuit et ce qui a déclenché une alerte dans tout le pays, ça a été l'utilisation par la Russie d'un missile hypersonique surpuissant, l'Oreshnik, engin extrêmement rapide, 10 fois la vitesse du son. Il a parcouru 1500 km en 15 minutes. Aucun moyen pour l'Ukraine de se défendre face à ça. Il a atterri à Lviv à 60 km des frontières de l'OTAN sur une infrastructure gazière. Résultat, plus de chauffage non plus pour des milliers d'Ukrainiens dans la région. Le calendrier de cette attaque n'est pas un hasard. L'Ukraine se prépare à une intense vague de froid dans les prochains jours. Le thermomètre va frôler les moins 30 degrés. L'attaque de cette nuit rendra ces températures invivables, sans électricité et sans gaz.
Merci Théo Renaudon, en direct donc d'Odessa. 9 jours après l'enfer de Crans Montana, la Suisse appelle aujourd'hui à rendre hommage aux 40 victimes, principalement des adolescents et de jeunes adultes décédés dans l'incendie d'un bar lors de la nuit de la Saint-Sylvestre à 14h. Toutes les cloches du pays retentiront pour un moment de recueillement. La France et l'Italie, particulièrement affectées par ce drame, avec respectivement 9 et 6 morts, seront d'ailleurs représentées par leur président Emmanuel Macron et Sergio Mattarella. Et puis pendant ce temps, l'enquête se poursuit pour déterminer les responsabilités des propriétaires de l'établissement. Un couple de Français arrivé ce matin au siège du ministère public de la capitale régionale pour y être entendu pour la première fois depuis l'ouverture d'une instruction pénale pour homicide par négligence. Seuls deux départements, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, restent toujours placés en vigilance orange après que la tempête Goretti, ses vents parfois violents jusqu'à plus de 200 km à l'heure, s'est abattue la nuit dernière sur le nord-ouest du pays. Fort heureusement, sans faire de victimes graves, en revanche, des centaines de milliers de foyers restent encore privés d'électricité ce matin, principalement en Normandie, mais aussi en Bretagne, en Picardie et en Île-de-France. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Encore maussade sur la majeure partie du pays, même si la tempête Goretti, justement, s'éloignera progressivement pour laisser la place à un ciel plus calme. Quant aux températures, elles seront comprises entre 4 et 13 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Axel Dubois et à 18h, vous avez rendez-vous avec Olivier Vogel pour le prochain journal de la rédaction.